Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. La justesse, c'est peut-être ce qui frappe le plus dans l'œuvre de Gaëlle Josse. En quelques mots ou quelques phrases, elle fait exister des personnages, dit des vies et des absences, met des mots sur des silences, en laisse résonner d'autres. Et bien souvent, au fil de la lecture, on se dit « c'est exactement ça, ce saisissement de nos vies, des émotions qui les traversent ». À l'occasion de la parution de son recueil de micro-fiction « À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ?», Gaëlle Josse est l'invitée de notre podcast pour un double épisode. Une plongée dans son parcours, de la poésie au roman, au fil d'une conversation, de plusieurs conseils de lecture et de quelques extraits. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti! Bonjour Gaëlle Josse et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast, Les éclaireurs de dialogue. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la librairie à l'occasion de la parution du livre « À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ?» Et c'était l'occasion de revenir sur votre parcours d'écrivain entre poésie et roman, au plus proche des mots et au plus juste des émotions. Alors pour vous, la passion des mots et des vies qu'ils portent en eux, elle commence je crois dès l'enfance. Vous êtes très tôt une lectrice passionnée, effrénée, et puis à l'adolescence, vous découvrez la poésie. Et là, c'est un choc littéraire, esthétique et émotionnel. Est-ce que vous pourriez alors nous parler de ces lectures qui vous ont profondément marqué et du monde qui s'est alors ouvert pour vous ?
Oui, eh bien, je vois que vous savez déjà tout. Alors, c'est vrai que depuis que je sais lire, je crois que je lis. Et je lis de manière obsessionnelle, compulsive. Voilà, j'ai une relation à l'écrit extrêmement compulsive. Dès qu'il y a des lettres écrites quelque part, il faut que j'aille voir ce qui est écrit. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans ma famille encouragée à la lecture, que ce soit avec les livres de bibliothèque ou les livres que mes parents pouvaient acheter ou les livres dont on disposait à l'école. Donc je ne sais pas comment expliquer ce besoin et tout d'abord ce bonheur à entrer dans des univers qui ne sont pas le mien, mais qui m'ouvrent des portes, des fenêtres, des horizons sur alors d'autres vies que la mienne, comme dirait Emmanuel Carrère. Mais quand on est enfant, on ne se pose pas ce genre de questions. On a juste envie d'être emmené. Quand on commence à savoir lire, ben on rentre dans les pages. Mais avant, il y a tout le rôle de la voix des parents, la voix maternelle ou une voix proche qui peut vous raconter ces histoires. Et ça, je trouve que ce sont des rites qui restent un petit peu magiques. Ces moments de soir, de pré-endormissement ou ces moments pendant les vacances où on s'ennuie un peu et où on a du temps pour entrer dans ces mondes et dans ces histoires. Et d'ailleurs, c'est très ritualisé parce qu'on sait quand on est enfant, on demande les mêmes histoires, on attend les mêmes mots, on attend ce qui se passe. Et il ne faut pas évidemment que le parent varie d'une virgule ce qui va se passer, sinon ça casse le charme. Donc il y a cet aspect entrer dans un monde, entrer dans une voix, entrer dans une musique. Et puis après, cette voix et cette musique, on l'entend avec nos propres yeux quand on arrive à lire. Donc oui, j'ai lu dès que j'ai pu, voilà, dès l'enfance. Et ça s'est prolongé avec l'adolescence, avec cette transition de la littérature alors enfantine ou pré-adolescente avec des titres et des collections qui aujourd'hui n'existent plus. Et très tôt, en fait, ce que je constate, c'est que par rapport à aujourd'hui où on a tout ce volet de littérature jeune adulte, soit adolescente, soit pré-adolescente, qui est un segment de littérature à lui seul, ça n'existait pas. Donc très vite, on passait des lectures un petit peu enfantines aux premiers grands classiques qu'on pouvait aborder. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de bonheur avec ça. Et je crois que le plus grand éblouissement quand même, comme vous le soulignez, ça a été avec la poésie. indiscutablement, avec, on va dire très classiquement, hein, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre à l'école, au collège, au lycée, c'est Rimbaud, Apollinaire. Et là, je crois que je me suis dit, à un moment, on peut vraiment faire ça avec les mots. Avec les mots qu'on utilise tous les jours, avec la grammaire qu'on utilise tous les jours, on peut vraiment faire des trucs comme ça. C'est-à-dire quelques mots qui explosent sur la page et qui explosent dans le cœur et dans la tête du lecteur en créant des images et des émotions. Ce qui est un petit peu différent, bon, la fiction, bien sûr, ça crée des images et des émotions, mais on est très porté par l'histoire, par la narration, par la story. On est porté par les personnages, on les aime, on les aime pas, on les accompagne, on a peur pour eux. C'est quelque chose d'assez différent. Alors que dans la poésie, on est dans la pure puissance du langage, de la langue, et dans, je dirais, l'émotion brute, avec en plus des collisions de mots qui ne sont pas forcément attendus, des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé à écrire dans une histoire, mais qui, posés comme ça sur une page, créent des assemblages avec des sonorités et des images absolument extraordinaires.
Je n'écris rien d'autre que ce qui vient se poser dans ce carnet, encombré de dessins maladroits, de listes de courses, de numéros de téléphone, de prénoms, de choses importantes oubliées. Je n'écris rien d'autre que les houles qui me traversent, que les envols qui me saisissent, m'emportent, que le souvenir d'un café partagé un jour de pluie, un jour où tout tremble. Je n'écris rien d'autre qu'un peu d'incertitude et le souvenir de quelques éclats de douceur recueillis sur des visages inconnus.
Un poème de Gaëlle Josse, issu de son recueil « Et recoudre le soleil », est lu par notre libraire Laure. Les livres ont toujours une place très importante pour vous, mais c'est vers des études de droit, de journalisme et de psychologie clinique que vous êtes orientée. Et puis les mots vous ont rattrapé, et c'est par la poésie que vous êtes entrée en écriture. Quel a été le déclencheur des premiers mots écrits ?
Les premiers mots écrits, ils sont venus très tardivement. Je ne fais pas partie des précocités littéraires, hein, plutôt des vendanges tardives. Donc c'est venu très largement autour de la quarantaine, à un moment où je crois, par l'intermédiaire d'amis qui écrivaient, qui publiaient des choses dans des revues de poésie, chez des petits éditeurs de poésie, qui m'a donné comme ça à lire certaines choses, j'ai découvert la vitalité, la vivacité du monde de la poésie contemporaine, de ces micro-éditeurs, de ces micro-revues qui essaient d'exister et qui donnent à lire des choses qui sont parfois tout à fait fabuleuses. Et il faut croire qu'il y avait des choses qui étaient à un moment un peu sous-jacentes, que je n'avais jamais pris le temps, que je ne m'étais pas autorisée à faire. Je crois que la vie me requérait de manière suffisamment intense, voilà, pour que je n'ai peut-être pas ces moments de poser des choses. Et il faut croire qu'il y avait quand même différentes choses pas très loin sous la surface. Et voilà, un jour j'ai commencé comme ça à poser quelques mots qui ont été accueillis dans des revues, puis chez des petits éditeurs. Et je trouvais que c'était une très très grande joie de pouvoir arriver à faire émerger son propre univers, son propre imaginaire, sa propre langue, de découvrir aussi ce qu'on a à dire, de voir surgir des choses qui ne sont pas toujours attendues, de voir aussi combien quelquefois c'est difficile, de chercher quelque chose, de chercher la note et de ne pas toujours la trouver, ou de voir aussi qu'elle arrive à des moments où on n'y pense pas forcément, qu'il y a cette question. C'est Jean-Philippe Toussaint qui parle en écriture de l'urgence et la patience. Et je trouve qu'on ne peut pas résumer l'écriture, je trouve, mieux que ça, avec cette nécessité à un moment qui émerge, qu'il y a quelque chose qu'il faut écrire. Voilà, on ne sait pas ni comment, ni pourquoi, ni où ça ira, ni où ça nous mènera. Il n'est même pas question du livre, ni du lecteur. Mais il y a un moment, quelque chose qui demande à être posé. Et puis, la patience de le laisser advenir jusqu'à ce que ça sonne juste à nos oreilles.
Que ça sonne juste, vous avez dit chercher la note aussi. En effet, la musique, c'est très important, la musicalité des mots, de l'écriture, les sonorités. Et écrire de la poésie, ben, c'est vraiment travailler ce matériau qu'est le mot, en saisir aussi la force évocatrice, en accepter le dépouillement aussi. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette entrée en littérature par la poésie a-t-elle nourri et façonné la romancière que vous êtes devenue ensuite ?
C'est toujours difficile de s'auto-analyser dans quelque domaine que ce soit, et dans le domaine littéraire peut-être encore moins, parce que ça veut dire qu'on se regarde écrire, qu'on essaie de décortiquer son style et ses mécanismes. Donc c'est pas forcément souhaitable, vous savez, comme le réveil qu'on démonte sur la table, qu'on met en petits morceaux et puis on sait pas le remonter. Donc je crois qu'il faut se garder de trop analyser ce qu'on fait pour garder vraiment le jaillissement, la source, et puis cette énigme quand même qui fait qu'on écrit à un moment, on regarde, tiens, j'ai écrit ça. Voilà. Mais pour vous répondre quand même un petit peu plus sérieusement, c'est difficile de dire quelle est la part de poésie qui intervient maintenant dans le roman. Et puis on ne décide pas d'écrire poétique. Tiens, là, je vais mettre un peu de poésie, ça va faire joli. Bon, non, il y a une langue qui se crée, il y a une histoire qui se construit avec des mots, avec, comme vous le rappeliez, une musique. Et à un moment, ça ressemble au livre que vous avez entre les mains. S'il y a quelque chose peut-être que je suis consciente d'avoir gardé de la poésie, c'est peut-être s'empêcher d'en faire trop, de rester quand même dans l'allusif, dans le dépouillement, dans la simplicité, ne jamais trop expliquer, ne pas trop surligner, pas prendre le lecteur par la main en lui disant « t'as vu, lui, il est gentil, elle, c'est la méchante » ou vice-versa. De ne pas surligner les émotions, de respecter l'imaginaire de celui, de celle qui va rencontrer le livre. Je trouve qu'on est toujours beaucoup plus fort quand on reste au bord d'eux que quand on explique vraiment tout de A à Z. Et en cela, la poésie, avec cette économie de moyens, hein, un poème, c'est une poignée de mots, ça peut être 5-6 mots quelquefois, sur une page, qui crée quelque chose. Et moi, je suis assez attachée à ce que le roman, la fiction, même avec des constructions narratives complexes ou des choses qui se passent, reste quand même dans cette simplicité, cette économie de langage qui pour moi est beaucoup plus forte.
Avant de plonger dans l'œuvre romanesque de Gaëlle Josse, nous vous proposons une nouvelle incursion dans sa poésie. Écoutons tout de suite Laure, libraire au rayon littérature, nous en parler.
Gaëlle Josse est moins connue pour sa poésie, mais de ce que j'ai pu comprendre en l'écoutant et en la lisant, elle lit et écrit de la poésie depuis toujours. C'est même d'ailleurs par la poésie qu'elle est entrée dans la littérature. Par des chemins plus confidentiels, elle avait publié quelques recueils de poésie avant la publication de ses premiers romans. Aujourd'hui, ils sont malheureusement tous épuisés. En revanche, nous pouvons nous procurer facilement en librairie son dernier recueil, dont le titre est « Et recoudre le soleil », publié en 2022 aux éditions Noir sur Blanc. Comme elle le dit elle-même, en préambule de l'ouvrage, « J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone. » Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. Ce sont des fragments récoltés qui portent une attention toute particulière à l'infime, au moment fugace qui traverse une journée. La poésie de Gaëlle Josse capte la simplicité d'une émotion, qu'elle soit joyeuse ou triste, qu'elle dénote un instant de bonheur ou de fragilité. Une poésie qui capte aussi la simplicité d'un regard posé sur une chose, un objet, un lieu, un être vivant, un élément naturel, ou toutes ces choses à la fois. À l'image de ce poème, un livre, une chambre, les raies de soleil entre les volets, la vie qui bruisse dehors, un aboiement, un ballon, des cris, une radio, plus loin encore, toutes les vies mêlées. Un regard qui déclenche une intensité, ensuite traduite en mots, les mots de la poésie, alors bien plus libres que ceux du roman.
Un jour, le roman est arrivé. C'est en 2011 qu'est paru le premier d'entre eux, oui. Les Heures silencieuses, aux éditions Autrement. Et ce livre, il est né d'un choc esthétique et émotionnel provoqué par une peinture. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment fondateur ?
Alors, c'est vrai, je n'avais pas du tout dans l'idée d'écrire un roman, de me dire, bon, voilà, la poésie, c'est bien, mais on va passer à autre chose. Pas du tout. Je n'étais pas particulièrement ni attirée, ni désireuse d'écrire un roman. Mais c'est la découverte de ce tableau d'Emmanuel de Witte, qui représente une femme à son épinette, de dos dans un intérieur flamand qui semble un petit peu l'écraser, un riche intérieur. Donc on ne voit pas son visage, elle est de dos à son instrument de musique qu'on devine. Et il y a la fenêtre avec la lumière du jour qui apparaît. Et puis vous savez, ces carrelages flamands noirs et blancs avec une porte qui dessine une ligne de fuite. Et au bout, on aperçoit une toute petite servante avec son balai qui est en fait le point de fuite parfait du tableau. Et cette femme qui semble dans son monde, dans sa bulle, et surtout dont on ne voit pas le visage, même s'il y a un grand miroir au-dessus d'elle, on aperçoit à peine son front. Et c'est un tableau que j'ai tout bêtement découvert sur Internet. Je faisais des recherches sur la musique, la peinture, etc. Et je découvre ce tableau que je ne connaissais pas, donc j'ouvre le fichier. Et là, ce tableau vraiment me saute au visage. J'ai eu une impression extrêmement étrange. Voilà, je ne sais pas comment la décrire, d'être aspirée dans ce puits de lumière, et puis surtout de me poser cette question, pourquoi cette femme est-elle de dos ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ne nous montre pas son visage ? Voilà. Alors évidemment, c'est de la pure projection, hein. Les tableaux, c'est des boîtes à fantasmes. Des machines à faire écrire. Et j'ai, à un moment, cette femme a pris corps, a pris chair, a pris un nom. Elle s'est appelée Magdalena. Elle était l'épouse d'un armateur. Et à un moment de sa vie un peu particulier, elle éprouve le besoin de se pencher sur son existence. Donc, dans son journal, elle va évoquer un petit peu tous les âges de la vie qu'elle a traversée. C'est un petit peu l'histoire de la traversée d'une vie. Depuis l'enfance, l'adolescence contrariée, puisqu'elle est une femme et elle n'a pas le droit de prendre la suite de son père, alors qu'elle en aurait l'envie, le talent, les capacités. Donc c'est un destin très empêché. Elle va devenir après une jeune femme amoureuse et puis une mère confrontée à cette époque au drame des enfants que l'on perd, et puis à la joie de voir aussi grandir les autres, de les observer, de les regarder vivre. Et puis après, elle va être une épouse délaissée, une épouse blessée. Et puis un jour, elle va éprouver un désir interdit. Donc je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà, à une époque, un temps qui ne le permet pas. Voilà, comment on s'arrange avec ça. Donc j'essaie de raconter son histoire.
Et là, le roman naît. C'est pas le seul roman qui est né d'un tableau. Il y a eu aussi L'ombre de nos nuits. Et puis il y a sinon le dernier Gardien d'Ellis Island aussi, qui lui est né d'un lieu.
Oui.
Ça montre quand même une certaine force de l'image. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est créatrice d'imaginaire ?
Alors là encore, c'est pas une décision de se dire oui, j'aime bien l'art, j'aime bien la peinture, tiens, ce tableau, il est pas mal, on pourrait faire quelque chose avec. Ça se passe évidemment pas comme ça. C'est vraiment le point de rencontre entre un regard et un tableau ou une œuvre d'art quelconque qui, à un moment, crée un télescopage qui va générer avant tout une émotion, des questionnements, des des souvenirs, qui va mettre en route énormément de choses, à la fois de l'ordre de l'intime et aussi de l'ordre de l'imaginaire. Les deux vont se rencontrer, vont se tisser. L'intime va se trouver transposé, filtré, décalé. Et puis l'imaginaire va aussi venir le nourrir. Et tout ça, ça va donner lieu à la création d'une fiction. Mais c'est jamais une volonté délibérée. Voilà, de se dire, tiens, ce tableau me plaît, je vais essayer d'en faire quelque chose. C'est plutôt l'inverse. C'est le tableau qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez vraiment souhaité et qui va venir, en fait, vous chercher en provoquant des émotions, en mettant en route une part d'imaginaire. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'art. C'est qu'est-ce que ce tableau ou cette musique qui a été peint ou composée il y a 3 ou 4 siècles, aujourd'hui, à moi, qu'est-ce qu'elle vient me raconter des choses sur moi ? Donc, ces choses, je vais essayer de les entendre et puis de les raconter.
Écrire des romans, c'est aussi découvrir le tissage d'un fil narratif et puis surtout faire exister des personnages. C'est une relation très singulière, celle d'un auteur et de ses personnages. Alors, dans certains de vos romans, vous racontez vos personnages grâce à un narrateur omniscient. Dans d'autres, ils s'expriment à la première personne. Je pense notamment à La Nuit des Pères qui contient 3 jeux différents. Alors, comment est-ce que ça s'impose au moment de l'écriture et dans quelle mesure est-ce que ça influe ou non sur la relation au personnage ?
Alors là, c'est une question qui est intéressante et complexe, hein, dont on pourrait parler toute la nuit, mais je crois que ce n'est pas l'objectif de cet enregistrement. En fait, je trouve que c'est une des premières choses qu'il va falloir décider ou qui va se décider quand on commence à écrire un roman. D'ailleurs, comme lectrice, c'est aussi quasiment la première chose que je remarque. Qui parle ? Qui porte l'histoire ? Qui raconte ? Et à un moment, l'histoire que je porte, qui demande à être écrite, il y a un moment où il me semble évident que ça va se raconter comme ça, avec telle ou telle voix, qui me semble en fait la plus adaptée, la plus juste à porter l'histoire. Alors quelquefois, c'est en effet un jeu, j'aime bien le jeu, qui est une voix très, très intérieure, qui permet d'atteindre à des strates et des profondeurs que pour moi, un narrateur omniscient a peut-être du mal à pénétrer ou si ça fait peut-être un peu artificiel. Donc j'aime bien comme ça, cheminer à côté du personnage qui se raconte et qui découvre aussi sa propre vérité. On arrive jusqu'au noyau dur de l'être. Donc je trouve que c'est intéressant, mais c'est évidemment pas la seule possibilité. Ça peut être un il, un elle, un nous, un tu, un vous. En fait, chaque livre a sa propre voix, sa propre forme narrative. Et il m'est même arrivé quelquefois de partir sur une voie dans tous les sens du terme, pour m'apercevoir qu'en fait, au bout de quelques pages, un truc qui ne collait pas, que ce n'était pas forcément cette voix-là qui était la mieux placée pour raconter cette histoire.
Et puis parmi vos personnages, parmi ceux qui ont pris vie sous votre plume, il y en a qui ont réellement existé. Il y a le peintre Georges de Latour, la photographe Viviane Mayer, le compositeur Franz Schubert. Comment est-ce qu'on s'en empare ? Alors, est-ce que ça change ? Est-ce qu'on garde la même liberté avec un personnage qui a existé et un qui est totalement inventé?
Oui, c'est intéressant comme question. En fait, moi, vous savez, j'ai l'impression que je m'empare de rien. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, que ce sont eux qui se sont emparés de moi. Et c'est vrai qu'il y a d'autres questions qui se posent quand on a affaire à soit une page d'histoire, soit un personnage qui a réellement existé. Est-ce qu'on a la même liberté de fiction, d'inventer des choses, alors que on est face à un destin qui a vraiment été. Alors, pour tout vous dire, moi, je ne suis pas très amie avec la biographie romancée. Non pas que ça soit un interdit ni quoi que ce soit. Il y en a même qui sont très réussis, ce n'est pas la question. Mais je n'ai pas toujours envie, quand je m'intéresse à un personnage, à entrer dans le... peut-être dans la projection ou dans le fantasme d'un elle et moi, d'un lui et moi, mais j'ai envie de savoir quel était vraiment, qu'est-ce qu'on sait de cette vie sans lui prêter des choses qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent à l'auteur qui lui écrit. Voilà. Après, ça peut être extrêmement bien fait et tout à fait passionnant, mais pour ma part, je ne me sens pas, comment dire, c'est pas autorisé, mais j'ai un petit peu de mal à exprimer ça face à une vraie vie qui a été. En fait, je ne me sens pas vraiment le droit de lui prêter des choses qui sont de mon seul imaginaire ou de mon seul fantasme. Et quand vous faites allusion, par exemple, à Viviane Mayer, non seulement c'était une vie suffisamment complexe et romanesque pour ne rien avoir à inventer, mais aussi une vie sur laquelle on a très peu de choses. On a des traces, on a des jalons, et il y a énormément de trous, de blancs, d'ombres. Pourquoi les remplir ? Toute vie a ses parts d'ombre, ses mystères, ses silences, ses absences. Et je ne vois pas la nécessité de les remplir à tout prix. Donc par moments, c'est vrai que j'ai formulé des hypothèses ou posé des questions. Et quand j'ai raconté, que j'ai décrit un certain nombre de choses, en soi-même, je n'ai pas imaginé l'événement, mais j'ai imaginé comment, dans le contexte, ça avait pu se passer. Voilà, ce qui est une chose différente. C'est en effet un exercice que j'ai trouvé assez intimidant, en fait, d'entrer dans une vraie vie. Voilà. On s'arrange avec un personnage de fiction. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, bon, ben, voilà, on se dit qu'on va essayer autre chose, ou on arrête. Ou, voilà. On est un peu... je ne sais pas si on est tout puissant, parce qu'en même temps, on écrit ce qu'on peut. Mais on est tenu à aucune vérité. Voilà, rien n'exige que ce personnage il fasse ceci ou cela. On est à un moment dans notre fantaisie. Et avec un personnage qui a existé, pour moi, les choses sont différentes.
Une femme en contre-jour, c'est le titre du roman de Gaëlle Josse sur Viviane Mayer. Et c'est l'un des coups de cœur de notre libraire Michael. Il nous en dit tout de suite quelques mots.
Tout part d'une découverte incroyable de l'œuvre d'une photographe méconnue, Viviane Mayer, un univers qui entre en écho avec ce qu'elle est et qui provoque chez elle de vives émotions. Et elle se décide, Gaëlle Josse, à raconter à sa façon l'histoire de cette femme hors du commun, qui est Viviane Mayer. Et on va trouver des similitudes entre, d'ailleurs, l'œuvre de Gaëlle Josse et l'œuvre de Viviane Mayer, qui passe essentiellement par le portrait. Et aussi le principe de l'instantané. On va prendre des instantanés de vie, s'approcher au plus près de quelqu'un et raconter aussi ce qui se passe derrière le visage, en fait, quelque part. Ce livre, c'est... ni réellement un roman, ni réellement un essai, c'est un peu entre les deux, parce qu'on trouve quand même la plume de Gaëlle Josse avec ces moments très très émouvants, très forts, cette écriture toujours très poétique, et en même temps, c'est assez factuel, il y a un côté assez documenté, en découvrant petit à petit à quel point l'œuvre de Viviane Mayer est essentielle d'un point de vue de la photographie, elle va essayer de découvrir qui est derrière cette œuvre, et elle va remonter jusqu'à son enfance, jusqu'à sa vie dramatique, tragique même. La vie de Viviane Mayer est tragique. Et je pense que c'est aussi ça que Gaëlle Josse a essayé de saisir, c'est la tragédie qu'il y a derrière la vie de Viviane Mayer. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est une œuvre un peu à part dans le parcours d'écriture de Gaëlle Josse, puisqu'il y a un personnage réel, l'œuvre de Viviane Mayer, l'émotion que ça a provoquée et l'envie de partager, je pense, avec un maximum de monde, ce parcours extraordinaire.
C'est la fin de ce premier épisode des Éclaireurs de Dialogue avec Gaëlle Josse. À suivre donc dans un second volet, où nous parlerons de plusieurs romans de Gaëlle Josse, de son recueil de micro-fictions et du désir d'écrire, essentiel, précieux et toujours renouvelé. Plusieurs livres ont été évoqués au cours de cette conversation. J'en place les titres et références en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet, librairiedialogue.fr. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite de cet entretien. À très vite et belle lecture d'ici là.